Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques, Denis Knopfler.
Mesdames et messieurs, quand faut-il faire commencer à Athènes l'époque hellénistique? Il y a divergence là-dessus parmi les spécialistes, parce que l'adjectif hellénistique, qui est usuel depuis la fin du XIXe siècle pour désigner tout ce qui appartient au monde grec entre les conquêtes d'Alexandre et la mainmise définitive de Rome sur l'Orient hellénique, ne comporte en lui-même aucune notion chronologique précise. Les Grecs utilisaient le terme « hellénistai » ou « hellénistikos » qui, en fait, n'existe pas en grec ancien, que pour qualifier les étrangers hellénisés. Les Athéniens eussent donc été bien surpris d'apprendre que leur cité était devenue hellénistique par suite de leur entrée dans un monde nouveau, dominé par ce souverain étranger, sinon barbare, qui était pour eux le fils de Philippe de Macédoine. Mais l'expression époque hellénistique est commode, indiscutablement, pour caractériser d'un mot une nouvelle phase de l'histoire grecque, pour la distinguer de celle où les poleis, les cités, avaient vécu à l'abri de l'influence directe, prépondérante, des rois de Macédoine ou d'autres souverains. Il est bien plus malaisé, en revanche, de dire quand se situe le tournant. Certes, dans le cas de nouvelles cités, comme Alexandrie, comme Antioche de Syrie, création d'Alexandre ou de ses proches successeurs, le problème ne se pose pas. Il ne se pose pas non plus pour les cités où le passage s'est fait de manière brutale, dans le cas de Thèbes, de Béotie en particulier, puisque sa destruction par Alexandre et sa lente reconstruction s'écoulent, entre ces deux phases, s'écoulent pas moins de 20 ans de vide. Il y a donc incontestablement une Thèbes archaïque et classique, dont le sort a été scellé, pour ainsi dire, en 335, et une Thèbes hellénistique, puis romaine, dont l'acte de naissance est parfaitement bien daté de 315. Mais les choses se présentent différemment dans le cas d'Athènes, où les éléments de continuité semblent, en cette seconde moitié du IVe siècle, l'emporter sur les points de rupture. On comprend dès lors qu'aucune date n'est réussie jusqu'ici à faire l'unanimité. De fait, la divergence est notable à cet égard entre le vieux livre de Ferguson, dont nous avons parlé la semaine dernière, et l'ouvrage récent de Habicht, celui-ci faisant commencer l'histoire hellénistique de la cité dès 338 avant Jésus-Christ. Donc, avant même l'avènement d'Alexandre, tandis que son devancier n'entamait réellement le récit et l'analyse des événements qu'à partir de la capitulation d'Athènes en 322, au lendemain, par conséquent, de la mort d'Alexandre. Ces deux historiens ne se sont pas expliqués sur les raisons qui les ont déterminés dans un sens ou dans l'autre. Pour Ferguson, ce qui a joué incontestablement en faveur du tournant de 323-322, c'est la discutable rupture que marque ce moment sur le plan de l'histoire politique et institutionnelle. Il faut d'ailleurs observer que son choix est loin d'être isolé dans l'historiographie moderne, puisque, par exemple, c'est aussi la date qu'a retenue, donc 323, Édouard Ville, dans sa monumentale Histoire politique du monde hellénistique, des années 80, date de 322 qui, à bien des égards, se justifie. Et c'est encore la date de 322 qui a été considérée comme la plus marquante, à l'aube d'un siècle environ de changements fréquents de régime, période au terme de laquelle, vers 230, seulement commencerait véritablement la phase hellénistique de l'histoire de la cité. Donc, c'est la thèse, vous avez l'ouvrage sous les yeux, c'est la thèse soutenue par un jeune historien allemand, dans un livre d'une lecture fort allégée, très compacte, Untersuchungen zur Geschichte des spätklassischen Athen, avec ce laps de temps de 322-230 par Boris de Dreyer. Où cette notion de spätklassisch, classique tardif, empruntée à l'histoire de l'art sans doute, a été appliquée de façon un peu artificielle, à mon sens, à l'histoire politique. Mais pour revenir au cas de Ferguson en 1911, une autre raison a joué également, me semble-t-il, en faveur de 322. C'est l'existence d'un ouvrage qui était alors relativement récent, de la fin du 19e siècle, où la période immédiatement antérieure à 322 avait été étudiée de manière très développée par un savant allemand beaucoup plus ancien, Arnold Schäfer, Demosthenes und seine Zeit. Car cet érudit s'était appliqué à retracer l'histoire d'Athènes pendant toute la carrière du grand orateur, donc bien au-delà de Chéronée, bien au-delà du tournant de 338, puisque Démosthène, on le sait, prolongea son existence jusqu'au soulèvement athénien de 323 et son suicide emblématique l'année suivante dans l'île de Calauria marquait bien la fin d'une époque. On comprend mieux donc que Ferguson n'ait pas été tenté de revenir là-dessus en grand détail et qu'il n'ait pas voulu non plus, en l'absence d'éléments nouveaux, reprendre le dossier délicat des relations entre Athènes et Alexandre, qui était abordé plus ou moins en nombre d'ouvrages consacrés, alors eux, aux conquérants macédoniens. Chez Habicht, au contraire, plusieurs choses paraissent avoir agi dans le sens inverse, invitant l'auteur à remonter jusqu'à 338. Premièrement, l'apparition de documents importants, encore inconnus du temps de Ferguson, comme la désormais fort célèbre loi attique contre la tyrannie, promulguée au printemps de 336, quelques mois avant l'assassinat de Philippe de Macédoine, texte qui, depuis sa publication en 1952, a invité les historiens à poser un regard neuf sur la question des rapports entre ce roi et Athènes après Chéronée. D'autre part, on a rappelé que Habicht avait été l'éditeur de nombreuses inscriptions de Samos, mettant en pleine lumière l'importance de cette île comme possession athénienne pendant le règne d'Alexandre, et révélant surtout comment, du fait de la volonté du jeune roi, elle avait été perdue par les Athéniens. C'était une raison supplémentaire, donc, pour revenir à loisir sur toute cette période. Plus généralement, on peut penser qu'en commençant son exposé par l'époque dite de Lycurgue, on verra dans un instant ce qu'il faut penser de cette expression, Habicht souhaitait donner d'emblée une image positive de l'Athènes hellénistique, car les années allant de 338 à 324 témoignent d'un redressement financier et militaire, ou d'abord d'une activité édilitaire, navale, théâtrale, religieuse, un renouveau. En nette réaction par conséquent contre la vieille opinion, encore largement prédominante dans le grand public, qu'à partir de Chéronée, 338, débute pour la cité athénienne, jusque-là si glorieuse, une lente et irrémédiable agonie. Pour l'essentiel, on ne peut qu'approuver ici, je crois, cette façon d'entrer en matière, cette espèce de captatio benevolentiae pour le lecteur, qui a permis à l'auteur, en guise d'introduction, de brosser le portrait des cinq ou six principaux hommes politiques qui, dans leur maturité ou déjà dans leur vieillesse, assurèrent en quelque sorte la transition entre la cité dite classique et la cité dite hellénistique, mais c'est fondamentalement la même, bien entendu, non seulement Démosthène, on l'a vu, qui survit largement, mais Hypéride et surtout Démade, on verra ces personnages, sans oublier Lycurgue lui-même et le vieux stratège Phocion, personnage à la Plutarque, qui, jusqu'en 318, survivra à tous les ténors de l'une des plus brillantes générations, il faut bien le dire, de l'histoire athénienne. Le seul inconvénient, peut-être, de ce choix en faveur de 338, c'est qu'il vient renforcer, comme à l'insu de l'auteur, le caractère en quelque sorte fatidique donné à cette année-là, dans tous les manuels, où pendant si longtemps, elle a été considérée, on le sait, non seulement comme la fin d'une époque, mais comme la fin de l'histoire grecque, ou du moins de la cité grecque. Or, précisément, l'ouvrage de Habich fait pleinement partie de ces livres qui montrent le contraire, la vitalité de la cité athénienne, après cette date, sans parler ici des autres cités proches ou lointaines. Aussi, me paraîtrait-il préférable aujourd'hui d'adopter un autre point de départ pour Athènes hellénistique, non pas 338, mais 335. La belle affaire, me direz-vous. Hein. 3 ans, c'est bien peu de chose, à 2 millénaires et plus d'écart. Oui, bien sûr, au point de vue de Sirius, comme on dit. Mais dans l'histoire des hommes, et pas seulement des individus, cela peut compter hier comme aujourd'hui encore. N'est-il pas important, par exemple, de pouvoir fixer précisément à l'année 1989, avec la chute du mur de Berlin, un tournant dans l'histoire européenne, ou en 2001, avec l'attentat du 11 septembre, un tournant de l'histoire américaine, voire mondiale. Nos efforts pour préciser les choses, même dans un passé déjà bien lointain, ne sont donc peut-être pas vains. Et de toute façon, les historiens doivent faire leur métier. 338, certes, est l'année de la défaite mémorable, incontestable, retentissante, tout ce que l'on voudra, d'une coalition grecque, plus particulièrement thébano-athénienne, face à la phalange macédonienne. Mais cela aurait pu, après tout, n'être qu'une péripétie militaire sans grand lendemain, ni plus ni moins grave que bien des revers subis par Athènes dans le passé, sur mer comme sur terre. De fait, si les Athéniens subirent d'assez lourdes pertes sur le champ de bataille de Chéronée, environ 1000 hommes, ce n'est pas rien pour une cité antique, ce n'était pas l'hécatombe de l'expédition de Sicile après 415. D'autre part, à la différence de ce qui se produisit si souvent pendant la guerre du Péloponnèse, il n'y eut pas d'invasion de l'Attique, ni encore moins de siège de la ville. Agitée un moment, il est vrai, la menace d'une marche du roi vainqueur contre la cité vaincue fut vite écartée. On dira sans doute qu'il y eut tout de même, au lendemain de la bataille, un traité de paix et d'alliance, c'est-à-dire de capitulation douce, si l'on veut, qui mit Athènes à genoux, la privant de son empire maritime, avec de maigres compensations. Mais je crains qu'il n'y ait là un mythe de l'historiographie moderne, et déjà en partie antique, ou de la basse antiquité, contre lequel j'ai essayé de rompre une lance, sans beaucoup de succès encore, lors d'un premier cours donné ici au collège en quelques séances du printemps 2004, qui était consacré à une mise au point sur l'époque dite de Lycurgue, justement. Je ne reprends pas ici cette enquête critique de nos sources, si ce n'est pour en dégager, en préciser quelques conclusions. La première est qu'il y eut certes une paix, eirene, indiscutable, dont les modalités furent posées sous réserve de ratification majeure par un prisonnier athénien sur le champ de bataille de Chéronée, prisonnier appelé à devenir une figure majeure, l'orateur Démade. L'orateur Démade, celui qui a fait la paix, ô ten eirenen pepoiokos, comme doit le reconnaître, car c'est une phrase de Démosthène, comme doit le reconnaître le grand orateur Démosthènes, son adversaire politique, pourtant, quelques années plus tard, dans le fameux procès de la couronne en 330, c'est le discours 18-285. P ne réglant que des questions conjoncturelles, en fait, l'ensevelissement des soldats morts sur le champ de bataille, le sort des prisonniers, sans aucune, à mon avis, sans aucune clause territoriale, ni négative, ni non plus positive. Car les modernes en croyant pouvoir réunir en un tout composite des éléments glanés à gauche et à droite, ont fait de cette paix, qui n'était en réalité qu'un armistice permettant aux deux adversaires de souffler un peu, au moins autant pour Philippe que pour Athènes, on en a fait un acte diplomatique aussi complexe que contradictoire, bref, une chimère. Athènes n'a pas eu à conclure d'alliance bilatérale avec le vainqueur de Chéronée. Elle s'est bornée à entrer par nécessité dans l'alliance militaire à visée panhellénique mise sur pied l'année suivante, 337, par Philippe de Macédoine, dans la ville de Corinthe, d'où le nom moderne que l'on donne à cette paix et alliance, Ligue de Corinthe. Et c'est par le biais de ce traité multilatéral, et donc assez flou, dans la tradition de ce qu'on appelle les koinai eirenai, la koiné eirenai des paix communes, qui avaient été assez nombreuses tout au long du IVe siècle, que les Athéniens ont pu devoir renoncer à leur tutelle sur quelques possessions égéennes, mais pas toutes, on s'en fout, on le verra, que Philippe n'aurait guère eu le moyen de leur enlever de vive force, puisque la puissance navale était toujours du côté d'Athènes, il ne faut pas l'oublier, et pas du tout du côté de la Macédoine. En fait, il suffisait au roi vainqueur de faire inscrire le nom de ces territoires dans la liste des alliés, ce qui leur conférait ipso facto une autonomie de droit, sinon de fait. Mais la liste complète, nous ne l'avons de toute façon pas. À ce traité multilatéral, on rapporte traditionnellement, et à mon avis justement, deux fragments trouvés sur l'acropole d'Athènes, dont une liste, là, à droite, hélas très fragmentaire, mais significative néanmoins, des alliés. Il est vrai qu'un très honorable historien anglo-américain, Ian Worthington, vient de contester cette attribution pour défendre, Worthington, le nom étant tout en bas de la page, l'idée qu'il s'agirait là tout au contraire du supposé traité bilatéral entre Athènes et le roi de Macédoine au lendemain de Chéronée. Quelle aubaine, on l'aurait. Mais cette hypothèse, quoique émise par un bon spécialiste des règnes de Philippe et d'Alexandre, quoique parue en 2009 dans un volume en l'honneur de l'éminent connaisseur des institutions athéniennes qu'est P.G. Rhodes, vraiment des meilleurs connaisseurs du monde athénien, cette hypothèse ne me paraît pas acceptable. Relevons d'abord que la principale raison alléguée par Worthington pour retirer l'inscription à la Ligue de Corinthe est à peu près sans valeur, puisque c'est un pauvre argument ex silentio, comme on dit, qui consiste à s'étonner que seule Athènes, sur l'Acropole, ait livré des vestiges épigraphiques de ce traité multilatéral, dont on devrait avoir, selon lui, bien d'autres traces ailleurs, puisqu'il y avait d'autres alliés. C'est faire bon marché du hasard des trouvailles. Et surtout du fait que dans la plupart des cités, le texte avait dû être gravé, s'il l'avait été, sur du bronze périssable et non sur du marbre. Au surplus, des cas similaires sont très nombreux. Par exemple, on ne conserve aucun fragment, aucun, pas le moindre, d'un des plus célèbres traités de l'Antiquité, la paix de Nicias entre Sparte et Athènes, connue par Thucydide, 421, aucune inscription, pas le moindre fragment de la paix dite d'Antalcidas, très importante aussi en 386 avant Jésus-Christ, et dans un cas particulier dont j'avais traité rapidement l'an dernier, on ne connaît qu'un seul exemplaire et très fragmentaire sur les six qui existaient, pourtant, on le sait par l'inscription elle-même, d'un traité entre l'Étolie et la Béotie au début du IIIe siècle. Donc, l'argument est extrêmement faible. Mais le contenu même du fragment principal, qui est une partie du traité, où apparaît le mot « hégémon », où apparaît le mot « hégémon », je crains qu'on n'ait pas souligné la bonne... le voilà, il est, oui, c'est dans ce cadre, hein, en bas, vous voyez, « ho hégémon », pour désigner le roi Philippe, en tant que chef militaire de l'Alliance, exclut absolument qu'on ait affaire à un traité bilatéral conclu avec Athènes dès 338, quand cette ligue même de Corinthe, d'ailleurs, n'existait pas encore. Hégémon, c'est le titre qui désigne Philippe en tant que conducteur de l'alliance multilatérale. C'est un titre qui ne peut pas figurer dans un traité entre Philippe et Athènes, c'est totalement exclu, et surtout pas en 338. Et d'ailleurs, Worthington a bien senti cette difficulté, d'où sa solution réellement désespérée, qui consiste à faire de cet hégémon un titre applicable à Athènes elle-même, non plus à Philippe, en tant que la cité est, ou plutôt était, la puissance hégémonique de la Ligue maritime athénienne, ou l'ex-puissance légitime. Tout cela est terriblement artificiel dans l'interprétation et me semble impossible tant au point de vue de la langue grecque, hégémon ne peut pas désigner la cité d'Athènes, et en tout cas impossible au point de vue du langage diplomatique. Et pour couronner cette ruineuse construction, je n'en parlerai pas ici si elle n'avait pas été publiée dans cet excellent ouvrage sous le couvert d'un des plus savants historiens anglo-saxons, Rhodes, Worthington est obligé de contester l'appartenance de fragment B avec la liste des alliés à l'autre, bon, puisque dans un traité bilatéral, il ne peut pas y avoir une liste d'alliés. Or, il le fait de manière désinvolte, sans discuter même les raisons matérielles extrêmement pertinentes qu'avait avancé le grand épigraphiste Adolf Wilhelm pour réunir ces deux fragments dont, effectivement, l'identité de tous les éléments matériels est telle qu'il est impossible de les dissocier. Donc, jusqu'à plus ample informé, il n'y a pas à changer d'opinion sur la nature de ce document. C'est l'acte de fondation de la Ligue dite de Corinthe en 337 et pas du tout le prétendu traité bilatéral entre Philippe et Athènes après Chéronée, dont l'existence me semble avoir été inférée à tort par les monernes d'une phrase extrêmement vague de l'historien ou l'écrivain Pausanias au IIe siècle de notre ère. Un texte que vous avez entre les mains, que je montre aussi ici, au livre 1, chapitre 25. Pausanias affirmant que Philippe fit aux Athéniens beaucoup de mal, malista et kakosé. Eux avec qui il s'était allié, c'est une thémenos, en leur ôtant la domination sur les îles, mais sans dire du reste de quelles îles il pourrait bien s'agir, hein, ni non plus préciser d'aucune façon le cadre exact dans lequel cette alliance fut conclue. Donc, un passage à la fois très général et extrêmement vague qui a largement abusé les modernes. Au surplus, Pausanias ne... Vous savez que j'aime bien Pausanias, je ne veux pas de mal, hein, mais en tant qu'historien, il commet souvent d'assez graves erreurs lorsqu'il ne voit pas les choses, lorsqu'il ne décrit pas les choses. Pausanias ne paraît pas s'être aperçu que le reproche fait ici au roi Philippe, malveillance à l'égard d'Athènes, est en parfaite contradiction avec ce qu'il sera amené à dire un peu plus loin dans l'autre texte, 1.34, à savoir que c'est justement Philippe, Philippos, dit-il, Edoken, Philippe qui, après avoir pris Thèbes, remit aux Athéniens le territoire d'Oropos. En quoi ce roi aurait donc été, en bonne logique, un œillergetes, un bienfaiteur pour Athènes, et non pas du tout un malfaiteur. Aussi, Chéronée ne marque pas pour Athènes, à mon avis, un tournant réellement décisif sur le plan diplomatique. Il n'y a point de capitulation, aucune atteinte grave à sa souveraineté, sinon obligation, encore une fois, d'entrer dans une alliance multilatérale, une paix commune, patronnée, certes, par la Macédoine, mais quelle différence à y réfléchir. Avec, par exemple, la paix d'Antalcidas en 386, déjà mentionnée, placée, elle, sous l'égide non seulement de Sparte, mais du roi des Perses, donc pas du tout sous l'égide d'Athènes même, ou la paix de 366, qui avait été voulue par la cité de Thèbes, et où Athènes avait dû adhérer aussi par obligation. Pas de changement non plus, il faut le souligner avec force, sur le plan de la politique intérieure en 338, puisqu'après leur défaite sur le champ de bataille, les Athéniens n'apportèrent aucune modification à leur constitution. De fait, le célèbre texte qu'on appelle Athénaïon Politeia, rédigé vers 325, donc sous le règne d'Alexandre par l'école d'Aristote, ne fait nulle mention de Chéronée ou des lendemains de Chéronée dans l'exposé des changements constitutionnels, des métabolaïs de la démocratie athénienne. Tout au contraire, on voit Athènes, en 336, promulguer cette loi que vous venez de voir contre la tyrannie, loi dite d'Eucratès, qui est un renforcement explicite du régime démocratique, de quelque manière qu'il faille expliquer ou interpréter l'intention exacte du législateur, objet d'une controverse dans laquelle je ne veux pas entrer à nouveau ici. Mieux, on s'aperçoit aisément qu'il n'y eut aucun changement notable dans le personnel politique après la défaite de 338. Même les adversaires déclarés de la Macédoine, tels Démosthène, Hypéride et Gésippe, restent aux commandes, ne souffrant d'aucun discrédit auprès de leurs concitoyens. Démosthène même est désigné en 338 pour faire ce qu'on appelle le logos epitaphios, le discours funèbre aux morts, aux citoyens tombés à Chéronée. Et en 336, le peuple décide de lui octroyer une couronne d'or, la troisième d'ailleurs qu'il reçoit en considération de toute son action politique. Certes, on voit émerger quelques figures nouvelles par rapport à la période précédente, comme précisément Lycurgue et surtout Démade, le faiseur de paix, Démade. Suspect d'avoir l'oreille du roi, mais qui n'est nullement intouchable pour autant. Hypéride l'accuse, sans ménagement aucun, dans une action en illégalité pour avoir cherché à honorer un étranger, Eutychrates d'Olynthe, à la solde de Philippe. Un autre suppôt du roi de Macédoine est Diondas, dont on savait qu'il avait été attaqué en justice par le même Hypéride. Procès politique en nombre. Or, par une chance extraordinaire, voilà qu'une partie importante du discours contre Diondas vient d'être publiée, après avoir été laborieusement remis en lumière dans un manuscrit byzantin palimpseste, c'est-à-dire utilisé une seconde fois pour un autre texte. Et l'on voit avec quelle violence s'affrontaient, vers 334, quatre ans après Chéronée, partisans et adversaires de la Macédoine, les Hyper Philippou Politeiomenoi, qui se battent au nom de Philippe, pour Philippe, et les Hyper Thespoléos, bon, c'est un partisan de la cité qui le dit, Pépoliteiomenoi, qui ont travaillé pour l'intérêt de la cité. C'est une phrase d'Hypéride lui-même dans ce discours. Pas moins de 15 fois, le dénommé Diondas s'était déchaîné contre Démosthène, attaquant Hypéride à 3 reprises devant les tribunaux, et Lycurgue au moins une fois en 335, pour impiété à Zébéia contre Alexandre, la majesté d'Alexandre. Calicurgue, fils de Lycophron, d'Udème de Boutadès, était bien sûr, lui, tout sauf un partisan de la Macédoine. Mais cet aristocrate, quoique déjà âgé, ne jouait encore qu'un rôle de second plan au début de la période à laquelle son nom se trouve attaché. Cette période qui va de 338 à 323, bord d'Alexandre. Il importait lors de s'interroger un instant sur la pertinence d'une appellation qui implique que ces 15 années forment une unité chronologique, un tout sans aucune discontinuité et encore moins rupture. Car même dans l'hypothèse la plus favorable, celle qui a tort ou a raison voit dans Lycurgue l'inspirateur de toute la politique athénienne pendant ces années-là. Force est de constater que cet orateur exerça une influence, que la rareté, sinon même l'absence, d'indices permettant d'affirmer que Lycurgue exerça une influence prépondérante dès après Chéronée. En effet, c'est seulement en 336, l'année de la mort de Philippe, qu'en toute discrétion, il paraît avoir été élu pour 4 ans au poste de responsable, certes important, mais un peu en retrait quand même, des finances publiques, le ho epi tei dioikesei, la dioikesis, d'où viendra notre mot diocèse, hein, dioikesis, dans lequel il manifesta assurément de réels talents d'administrateur. On tient le plus souvent pour certain que le premier décret conservé où figure son nom, en tant qu'auteur de la proposition, rogator, comme on dit en empruntant un terme latin, date de l'année archontale 336-335. Vous voyez sous les yeux l'édition qui fait autorité encore des inscriptiones grecques. Mais à examiner de plus près cette inscription très mutilée, hélas, on voit que le nom de l'archonte, en haut, souligné en rouge, Epipitodelou, est entièrement restitué. Ce supplément est donc sujet à caution et de fait, il est aujourd'hui considéré comme très douteux par l'épigraphiste anglais Stephen Lambert qui prépare la réédition des décrets attiques de cette époque. Une datation en 335-4, avec un autre nom d'archonte, et puis Yain et tout, est non seulement parfaitement possible, mais a priori bien plus vraisemblable, puisque la tradition littéraire qui attribue à Lycurgue de nombreux décrets, psephismata, portant en particulier sur les affaires religieuses, c'est-à-dire périhiérone, pas des discours comme on l'a parfois traduit, mais des propositions de décrets, n'en cite nommément aucun pour cette phase ancienne. Il est d'ailleurs significatif qu'un décret provenant des fouilles de l'Agora d'Athènes, publié en 1974 et qui a bien souvent échappé aux critiques, ait été prudemment placé par son éditeur dans la fourchette 331-324, faute d'indication précise par la mention d'un archonte qui n'y figure pas. Mais on voit que c'est bien Lycurgue qui l'a proposé, et donc c'est au démo, Lycurgos, Lycophronos, ça ne fait aucun doute pour la restitution. Et il serait important de savoir de quand il date. Il honore un citoyen d'Agrigente en Sicile, Acragantinos, c'est intéressant, qui a facilité l'approvisionnement d'Athènes en blé. Et de ce fait, on le met volontiers, mais sans certitude, mais on le met volontiers en relation avec la réduction des arrivées de céréales au Pirée à partir de 331 environ, à la suite d'une crise frumentaire d'ampleur méditerranéenne qu'Alexandre ne réussit pas, à supposer qu'il l'ait voulu, à juguler. Ce serait donc une assez grosse surprise d'apprendre par la trouvaille du fragment manquant ici ou de toute autre inscription nouvelle que Lycurgue fut déjà l'auteur de propositions à l'Assemblée avant 335, dans la période 338-335. En toute cause, aucun des décrets qui ont été réunis récemment par le même Stephen Lambert autour du thème de l'activité théâtrale de la cité dans cette période dite de Lycurgue, une expression de plus en plus utilisée, aucun de ces documents, disais-je, n'est antérieur à l'année 332. Le plus célèbre d'entre eux étant ce décret que Lycurgue, encore lui, proposa, là on le sait de façon sûre, en l'an 329, pour honorer Eudémos de Platée, qui se montra généreux, ce béotien, lors de la construction du stade panathénaïque d'Athènes, du théâtron, de la partie spéciale du, théâtre, du stade. Tandis qu'un autre décret, que je ne montre pas ici, lui aussi proposé par Lycurgue, dont on voit la belle activité politique, d'autres décrets honorent ou accordent, ou plutôt aux marchands de Kition, dans l'île de Chypre, le droit d'acquisition d'une terre pour y élever un sanctuaire à Aphrodite, leur déesse nationale. Ce décret date, lui, de l'hiver 332-331. De fait, les deux plus anciens témoignages épigraphiques, toutes catégories confondues, concernant l'activité politique de Lycurgue, sont deux décrets qui ne remontent pas plus haut, eux non plus, que l'année 335-4. L'un, cité dans les archives de la marine, honore le stratège Diotimos. On aura l'occasion de revenir sur le contenu, la portée historique de ce document. Et l'autre décret porte sur la réorganisation. Il est malheureusement en assez mauvais état. Il y a une première partie où on voit juste assez du nom de Lycurgue, fils de Lycophron, d'Udème de Boutadès, qui introduit la motion. Et ce fragment est daté sûrement, et le décret lui-même, mieux conservé, et vous voyez, amputé en bonne part aussi, est d'une extrême importance, car il porte sur la réorganisation de nombreux cultes civiques, dont celui d'Amphiaraos. On verra que ça a de l'importance, Amphiaraos, le dieu médecin d'Oropos, ce qui est aussi un indice chronologique. Donc, en 335, Lycurgue fait assurément partie des hommes politiques en vue, mais c'est à partir de cette date seulement qu'il commence à occuper une position prédominante. Il paraît ainsi singulièrement abusif, et même si de telles généralisations sont fréquentes, normales, excusables chez les historiens, de vouloir embrasser toute la période 338-323 sous le nom de « époque de Lycurgue », « Lycurgische Zeit », « Lycurgen Era », « Epochit » ou « Lycurgu ». Tout ça est très répandu chez les historiens. Au surplus, cette tendance des modernes à tout mettre sur le compte de Lycurgue vient de faire l'objet d'une critique largement justifiée de l'historien français Patrice Brun, dans un article de 2006, volume de Mélange, qui montre combien est peu ou mal fondée, à y regarder de près, l'idée que Lycurgue serait sinon l'auteur, du moins l'inspirateur direct de tous les grands textes législatifs de cette époque. Pourtant, bien souvent transmis sous d'autres noms contemporains. Ainsi, la célèbre loi épigraphique que l'on commencera à examiner tout à l'heure au séminaire sur les petites panathénées, un texte extrêmement célèbre. Ou la non moins fameuse, encore que totalement inconnue dans sa teneur originale, la loi sur relative à l'éphorme de l'éphébie, sur laquelle on va revenir dans un instant. Le portrait de Lycurgue, en législateur souverain, imposant ses vues au sein de son parti, ou du parti conservateur, entre guillemets, bien entendu, et les faisant approuver, ensuite, ses vues par l'Assemblée du corps civique, relève largement d'une vision quasiment idéologique, dénoncée également il y a peu par l'historienne turinoise Enrica Culasso Gastaldi. Un véritable mythe, et d'autant plus tenace qu'il a été, forgé, en réalité, dès la fin du IVe siècle, comme l'autorise à l'affirmer un décret voté pour Lycurgue, à peu près 20 ans après sa mort, en 307. Car ce décret, qu'on sera amené à examiner plus tard, connu à la fois par l'épigraphie et par la littérature biographique, a pour auteur un homme politique des plus habiles à manipuler la vérité historique, Stratoclès de Dioméa, on aura l'occasion d'en reparler, un propagandiste attitré du roi Démétrios, Polyorcète, à l'extrême fin du IVe siècle. Or, tout en fournissant des informations d'une incontestable valeur, puisées à de très bonnes sources, puisqu'en 323 déjà l'orateur Hypéride faisait état, dans un discours célèbre mais bien mal conservé, qui était la défense des enfants de Lycurgue, de la remarquable activité édilitaire en particulier de ce dernier. Ce décret de Stratoclès tend à donner l'impression que Lycurgue était seul à s'opposer à Alexandre en tout temps, chose qui est manifestement erronée, et à peu près seul également à produire un grand nombre de lois excellentes, nomus de polus kai agatus, ce qui est contraire au simple inventaire des données. Car l'activité législative, au sens le plus large du terme, d'un homme tel que Démade, ne fut sans doute guère moindre. Dès lors, il ne faut pas se laisser tromper par l'expression « époque lycurgéenne », généralisation commode, encore une fois, pas entièrement fausse, mais en partie fallacieuse, dans la mesure surtout elle implique l'existence, encore une fois, d'une période de 15 ans, 328-323, qui aurait été d'un seul tenant, une et indivisible, en quelque sorte, alors que tout invite aujourd'hui, me semble-t-il, à penser qu'il y eut en réalité une rupture assez nette, un infléchissement perceptible à l'intérieur même de ce laps de temps, donc un véritable tournant à placer en 335. Mais qu'a-t-il donc pu se passer de si important en 335, qui devrait conduire en fin de compte à faire pencher la balance en faveur de cette date, de préférence à toute autre, comme moment clé inaugurant véritablement la phase hellénistique de l'histoire d'Athènes. Un épisode de cette année-là était connu depuis toujours. Mais en dépit de son indiscutable importance, il pouvait sembler tout de même un peu marginal du point de vue strictement athénien. La destruction de la ville de Thèbes par Alexandre, venu en toute hâte, on le sait, mater l'insurrection thébaine, cette année-là, insurrection dirigée contre le nouvel ordre macédonien instauré par Philippe. Cet événement fut en réalité un traumatisme pour les Athéniens, pour eux aussi, puisque beaucoup d'entre eux, sinon tous, avaient pris fait et cause pour les Thébains. Les textes de Diodore à Plutarque, je dirais faute de mieux, sont unanimes là-dessus, qui montrent à l'envi la crainte et même la terreur phobos qui, à l'annonce de cette catastrophe, s'empara des Athéniens, au moment même où était célébrée la grande fête des mystères de Déméter et de Corée dans ce sanctuaire d'Éleusis, qui était directement accessible par l'école du Cithéron depuis la Béotie. L'impitoyable petit jeune homme, comme disait Démosthène, monté l'année précédente sur le trône de Macédoine, n'allait-il pas leur réserver, aux Athéniens, le même traitement, lui qui n'avait pas eu de long état d'âme, selon toute apparence, avant de donner l'ordre de raser Thèbes, la ville aux sept portes, la plus ancienne cité de Grèce, en faisant massacrer ses défenseurs par milliers, asservir le reste de sa population? Athènes prenait conscience d'un seul coup de sa terrible vulnérabilité, en dépit de ses belles murailles et de sa flotte encore intacte. On sait que dans un premier temps, Alexandre exigea que lui fussent livrés une demi-douzaine d'hommes politiques parmi les plus en vue et les plus suspects d'intelligence avec les Thébains. Démosthène, Hypéride est déjà Lycurgue, ce qui prouve que Lycurgue était déjà relativement important, mais d'autres qui nous sont moins connus et qui prennent un certain relief grâce aux inscriptions comme Moirocles d'Eleusis, attesté maintenant dans plusieurs documents. Une ambassade menée par deux personnalités qui, elles, ne pouvaient pas être suspectées. Démade, l'homme de la paix avec Philippe, tout désigné, évidemment, pour aller rencontrer Alexandre, et Phocion, l'irréprochable stratège, une sorte de Pétain athénien, qui engagèrent des pourparlers avec le roi, lui demandant en particulier de laisser les Athéniens instruire eux-mêmes le procès des accusés. Il est tout à l'honneur d'Alexandre, écrit Abicht, d'avoir souscrit aux demandes des ambassadeurs. Dans cette décision a pu peser le fait que le roi était pressé de donner un nouvel élan à la guerre contre l'Empire perse. Fin de la citation. On ne peut qu'approuver. Bien entendu, l'auteur de Athènes hellénistique, d'autant plus que c'est la version d'Arien, le principal historien d'Alexandre, d'après qui, justement, le roi ne voulait laisser derrière lui rien qui fût suspect. Livre 1, chapitre 10. Mais on voudrait savoir plus précisément ce qui fut offert et reçu de part et d'autre en guise de garantie de paix, afin justement que l'expédition pût se dérouler en toute sécurité, sans que l'éloignement du roi, en Asie, mineur d'abord, provoquât justement un nouveau soulèvement. Alexandre avait le choix entre deux parties, ou tuer dans l'œuf toute velléité d'opposition, en prenant des mesures drastiques d'ordre militaire, qui aurait laissé les Athéniens sans moyen de résistance. Ou alors, au contraire, leur faire une faveur considérable, un cadeau inespéré, qui assurerait, au moins temporairement, leur bienveillante collaboration. La première solution, militaire, était coûteuse, en temps, en argent, en hommes. Elle était évidemment déplorable sur le plan idéologique, puisqu'Alexandre aurait dû renoncer définitivement à se présenter comme l'hégémone des Grecs et surtout comme le vengeur des Athéniens face aux Perses. Le second parti était certes risqué, mais ne lui coûtait rien, car le roi allait se contenter d'être généreux avec le bien d'autrui. Ce cadeau, qui pouvait produire des effets très positifs et qu'une conjoncture favorable lui permettait de faire précisément en 335, c'est le don d'Oropos, territoire frontalier que la cité d'Athènes avait perdu en 336 au bénéfice de Thèbes. Territoire constamment revendiqué depuis plus de 30 ans, pomme de discorde, objet de promesses jamais tenues, sujet devenu presque tabou tant il avait suscité de faux espoirs et de déconvenus. La cession d'Oropos à Athènes par le roi de Macédoine était certes chose connue, elle aussi, et tous les manuels d'histoire grecque, des plus détaillés aux plus scolaires, en font état. Chacun de vous pourra le vérifier par soi-même. Mais tous, sans exception aucune, se trompaient à la fois sur la date, sur les circonstances et aussi, par voie de conséquence, sur l'auteur même de cette restitution, tenue pour avoir été faite, comme le dit Pausanias, par le roi Philippe au lendemain de Chéronée, donc dès 338. C'était même, nous disaient tous les modernes, avec une rare unanimité, une des clauses essentielles du fameux, j'allais dire plutôt fumeux, traité bilatéral athéno-macédonien, dont on a vu que l'existence même est des plus douteuses. Mais il y a maintenant un petit quart de siècle, vers le milieu des années 80, j'ai commencé à faire connaître assez discrètement d'abord mon opinion sur cet événement et la nécessité de substituer à la date traditionnelle de 338 celle de 335. L'hypothèse, car la chose pouvait être regardée alors comme purement hypothétique, ne fut pas mal accueillie par la critique. Toutefois, dans l'attente des preuves à venir, les mieux informés des historiens observèrent une sage retenue avant de la faire éventuellement leur. Christian Habicht, par exemple, qui avait pris acte de la nouvelle datation dès 1989, répugna à l'adopter dans son ouvrage synthétique de 1995, où est toujours exposée l'opinion commune selon laquelle le don d'Oropos aurait été, en 338, aux mains de Chéronée, une compensation, enche, digung, pour les pertes subies par Athènes dans le nord de la mer Égée. Mais avec une note, tout de même, une note indiquant la préférence de celui qui vous parle pour une datation décidément plus basse. Même chose dans la traduction anglaise et grecque de 1997. Dans la traduction française, en revanche, nous avons, ma femme et moi, marqué un peu plus clairement l'hésitation de l'auteur, avec son accord, bien entendu, en introduisant, page 31, une légère réserve. Les Athéniens étaient peut-être dédommagés. Et cette phrase est demeurée telle quelle dans la réédition de 2006, quand bien même Habicht était dès alors, je pense, totalement convaincu par la nouvelle datation en 335. C'est une évolution semblable que l'on peut observer chez Patrice Brun, auteur d'un essai d'histoire et d'historiographie sur l'orateur d'Emade, petit livre bienvenu en 2001, où, tout en connaissant parfaitement ma position, il restait fidèle à la version traditionnelle des faits, laquelle lui paraissait, somme toute, ni plus ni moins vraisemblable que la nouvelle. Mais ce collègue eut, en 2003, l'amabilité de me faire savoir par lettre qu'il avait changé d'avis. La chose est assez rare pour être signalée. Après la lecture qu'il avait pu faire de ma démonstration dans l'appendice d'un ouvrage passablement technique publié à Lausanne en 2001 sous le titre « Décrets érythréens de proxénie et de citoyenneté ». Et j'ai eu, pourquoi ne pas le dire, la satisfaction de constater que dans son mémoire de 2006, cité tout à l'heure, sur Lycurgue, Lycurgue d'Athènes, un législateur, le même historien, de voir que cet historien écrivait « C'est bien en 335 et non en 338 que l'Oropie revint dans le giron athénien. La démonstration de D.K. est suffisamment éloquente pour que l'on se dispense d'y revenir. » Eh bien, revenons-y pourtant un instant, les quelques minutes qui nous restent, afin de voir où sont, pour notre propos d'aujourd'hui, les conséquences historiques de ce réajustement qui peut paraître minime en fin de compte, tout juste bon à produire quelques vaguelettes dans l'officine d'une demi-douzaine de spécialistes disséminés de par le monde. La nouvelle datation permet tout d'abord de mieux comprendre l'ascendant pris par Demade à partir de 335. On savait certes qu'il avait été l'artisan de la paix, ou plutôt armistice, hein, de 338. On savait aussi qu'il avait été avec le vieux stratège Phocion, on l'a dit, l'un des deux principaux négociateurs de l'accord arraché, c'est le mot, hein, l'accord arraché à Alexandre après la destruction de Thèbes. On devinait également son rôle dans la récupération d'Oropos, puisque c'est lui qui s'attribue, ou qui s'en attribue expressément le mérite, dans un plaidoyer pro domo intitulé « Sur les 12 années, Uper tes dodeca etias ». Témoignage qui aurait été capital s'il n'était, hélas, dépourvu en lui-même de toute valeur probante. Car il est établi que ce discours, parvenu à nous sous le nom de Demade, est en réalité une œuvre apocryphe, un exercice d'école, un exercice de rhétorique, comme on aimait tant à en faire au IIe siècle de notre ère. Mais, si l'on situe en 335, non pas en 338, auprès d'Alexandre, non pas auprès de Philippe, le moment, l'occasion, le kairos, où Demade eut l'idée géniale, lui qui était un improvisateur né, de suggérer au roi ce cadeau extraordinaire pour Athènes, alors deux choses restées jusqu'ici largement énigmatiques deviennent aussitôt lumineuses. C'est d'abord que Demade ait obtenu de ses compatriotes l'honneur d'une statue de bronze sur l'Agora. Privilège inouï dans le cas d'un homme politique qui n'était pas un chef de guerre, un stratégos, mais un simple orateur, rhétor. Or, la statue était réservée aux stratèges. Même Démosthène, le grand patriote, n'eut pas de statue de son vivant. Il ne faut pas l'oublier, mais seulement des couronnes. Or, précisément, l'octroi de ces très grands honneurs, les mégistaitimai, avec le privilège également d'être nourri sa vie durant aux prytanées, pouvait se justifier en l'occurrence, pour Demade, par le fait que cet orateur avait non seulement su apaiser le courroux d'Alexandre, ce qui n'allait pas de soi pour un ambassadeur en pareille situation, mais aussi et surtout obtenir du roi, par un exposé sans doute remarquable, on voudrait l'avoir, ce qu'une génération de stratèges athéniens, y compris Phocion, toujours de service, n'avait pas réussi à gagner par les armes. Le décret qui est perdu octroyant la statue fut donc voté vraisemblablement au lendemain même de cet extraordinaire succès diplomatique. Et il n'empêche que même ainsi, la chose suscita la plus vive opposition de certains orateurs conservateurs, pas de Démosthène, à vrai dire, mais d'autres. Et quand Demade, en 323, à la mort d'Alexandre, fut condamné pour trahison, les temps avaient changé, le vent avait tourné, on s'empressa d'abroger le décret, pris naguère en son honneur, et la statue elle-même fut renversée ou fondue. Mieux, échaudé par cette mésaventure, le peuple athénien modifia dans les années suivante, la procédure même d'octroi des mégistai timai pour se prémunir à l'avenir contre les risques d'une décision prise justement dans le feu de l'action. Et c'est ce qu'a montré l'historien Philippe Gauthier en 84 dans son ouvrage sur les cités grecques et leurs bienfaiteurs. Le cas de Demade a donc marqué un tournant dans la vie politique. Et la seconde chose, qu'on peut s'expliquer enfin parfaitement, c'est le titre même du plaidoyer de cet orateur dans son procès de l'hiver 323-322. Uper dodeca etias. Certes, on l'a dit, le vrai est un faux, il faut le reconnaître, mais cette durée de 12 ans n'a pas pu être inventée de toutes pièces par le sophiste d'époque impériale à qui l'on doit cette assez médiocre pastiche. On savait qu'il y avait une durée de 12 ans. Or, tant que l'on faisait commencer la grande période de Demade en l'an 338, avec la prétendue acquisition d'Oropos sur le champ même de Chéronée, on ne comprenait pas ce nombre de 12, puisque son action politique était restée considérable, sans solution de continuité, jusqu'à la mort d'Alexandre en 323, donc 15 ans plus tard. Cela signifie donc que le véritable tournant à partir duquel Demade tint le rôle de ténor incontesté à la tribune de l'Assemblée, le début de sa période la plus brillante, la plus glorieuse, quand sa présence au premier rang de toutes les cérémonies publiques, de toutes les processions, de toute l'activité religieuse, se trouve attestée par l'épigraphie, ce tournant est à placer seulement en 335. 12 ans exactement avant le procès qui devait pour toujours jeter le discrédit sur cette figure d'orateur opportuniste, alors qu'inversement, la figure de Lycurgue allait grandir démesurément. Lycurgue qui eut peut-être la chance de mourir en 324, juste avant la fameuse affaire d'Arpale, qui l'année suivante allait éclabousser toute la classe politique athénienne, y compris le vieux Démosthène lui-même, qui était accusé d'avoir détourné à son profit une partie du fabuleux trésor apporté à Athènes par cet officier macédonien en cavale, avec toute la caisse de l'Empire d'Alexandre en guise d'argent de poche, si j'ose dire. Il n'y avait pas de poche encore à l'époque. Reste à montrer, je finis par ce bref paragraphe, que ce tournant de 335 ne concerne pas seulement un individu, si haut placé soit-il, car cette date présenterait alors un intérêt peut-être seulement limité sur le plan de la grande histoire, mais que la récupération de l'Europie en cette année-là, précisément, est synonyme d'un nouveau départ pour l'ensemble de la cité athénienne. Le début d'une nouvelle époque qui a sa tonalité propre, qui apparaît en fin de compte comme la véritable période de transition entre deux phases capitales de l'histoire athénienne. La phase classique, la phase hellénistique. D'une Athènes qui, au début, en 335, a encore des forces intactes, toujours grande et respectée, et qu'elle est même peut-être plus prospère qu'elle ne le fut dans un passé encore tout récent, mais qui se trouve en même temps comme en sursis, puisque désormais une part non négligeable de sa prospérité lui vient non pas d'une conquête accomplie par elle-même, mais d'un cadeau octroyé et donc révocable en tout temps. Chose qui, me semble-t-il, est la marque même de la cité hellénistique, naviguant entre liberté et soumission au gré de la faveur intéressée des rois, qui est une espèce irascible, hein, irritabile genus, comme dirait le bon Horace. Et cela justifie donc, à mes yeux, le choix de 335 au détriment de 338 comme point de rupture le plus net, d'autant plus que le renouvellement qui est observable dans le personnel politique ne touche pas seulement des individus, mais également, on le verra, des institutions, et parmi les plus importantes, celles qui touchent au culte et celles qui touchent à l'éducation, domaine difficile, s'il en est. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.